Le journal Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Au surlendemain des élections européennes, les tractations en vue de désigner les nouveaux dirigeants des institutions doivent commencer aujourd'hui entre les 28 dirigeants de l'Union, tous engagés dans une lutte de pouvoir à l'issue encore incertaine.
Après le triomphe du parti du Brexit aux élections européennes, les travaillistes clarifient leur position.
Le chef du Labour, Jeremy Corbyn, se dit à présent favorable à l'organisation d'un second référendum.
Les conséquences du scrutin européen sur la vie politique française à présent.
Lorsqu'à gauche, le parti de Jean-Luc Mélenchon, la France Insoumise, s'interroge sur sa ligne aussi bien politique que stratégique. À droite, la question de la ligne idéologique se pose également pour les Républicains. Invité de la rédaction dans une dizaine de minutes, Philippe Bas, sénateur Les Républicains de la Manche et président de la commission des lois du Sénat. Enfin, la veille de l'Assemblée Générale du groupe Total, au cours de laquelle ses actionnaires doivent se prononcer sur les orientations du groupe pétrolier en matière environnementale, une ONG, Notre Affaire à Tous, publie aujourd'hui un contre-rapport sur les engagements de l'entreprise française pour lutter contre le changement climatique. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Des rêves de puissance et d'hégémonie chinois, on en parlera avec notre invité, le journaliste Pierre Aski, qui revient dans un documentaire et dans un livre sur la génération Tiananmen. Qu'en reste-t-il aujourd'hui dans la mémoire collective chinoise? On en parlera aussi avec notre deuxième invité, la journaliste Aurélie Marciro, du nouveau magazine littéraire.
Merci et à tout à l'heure. Parce qu'en reflétant avec une acuité particulière les fractures au sein du vieux continent, les élections européennes de dimanche dernier auront créé tout à la fois une législature plus variée mais aussi plus fragmentée. La question se pose désormais de savoir qui saura au mieux incarner cette volonté manifeste de changement. Après que le centre-gauche et le centre-droit ont perdu leur majorité conjointe pour la première fois en 40 ans, le temps est désormais venu de la recomposition, ou pour le dire autrement, des tractations, ou comment reconstituer à travers des combinaisons de majorité et surtout de projet les aspirations en même temps que les contradictions de l'électorat. Audrey Tison, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Bruxelles. Ce soir, tous les dirigeants européens se réuniront à l'occasion d'un dîner exceptionnel, sauf que la plupart d'entre eux se seront déjà rencontrés plus tôt dans la journée. Signe que le temps des grandes manœuvres et autres marchandages politiques a commencé, et surtout, Audrey, que le plus dur ne fait en réalité que commencer.
Et oui, le grand enjeu du moment, c'est la désignation du président de la commission, poste hautement politique et stratégique. Quel camp va imposer son candidat? Emmanuel Macron est bien décidé à peser de tout son poids pour imposer un nom qui serait issu de sa tendance politique. La République En Marche s'est rapprochée des libéraux de l'ALDE pour former une force centriste au niveau européen. Ce futur groupe centriste peut se targuer d'une bonne dynamique après les élections, contrairement aux deux partis traditionnels en recul. Mais le centre ne sera numériquement que le troisième groupe de ce Parlement, derrière le Parti Populaire Européen à droite et derrière les sociaux-démocrates. Les négociations sont donc ouvertes depuis dimanche, à la fois au niveau du Parlement, les présidents des différents groupes politiques ont passé la matinée ensemble, et à la fois au niveau des chefs d'État et de gouvernement, ce qu'on appelle le Conseil, qui se réunit donc en sommet informel ce soir. Emmanuel Macron anticipe ce rendez-vous. Hier soir, il recevait le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez. Ce midi, il arrive à Bruxelles pour un déjeuner de travail avec à la fois Pedro Sanchez, mais aussi le Portugais Antonio Costa, qui sont en quelque sorte chargés de négocier au nom des sociaux-démocrates. Autour de la table également le Belge Charles Michel et le Néerlandais Mark Rutte, qui eux négocient au nom des centristes et devraient donc être raccord avec le président français. La droite PPE n'a pas encore désigné de négociateur au niveau du Conseil, alors Emmanuel Macron va rencontrer individuellement certaines figures, l'incontournable Angela Merkel, Donald Tusk, actuel président du Conseil, mais aussi des dirigeants d'Europe de l'Est, dont le fameux Viktor Orban. Tout ce petit monde va ensuite se retrouver pour un dîner, mais il ne faut pas croire qu'un nom sortira des discussions ce soir. Les négociations vont se poursuivre à distance dans les jours à venir.
Merci Audrey Tison, en direct de Bruxelles. Alors tous ces jeux d'alliances devront à terme être susceptibles de concrétiser des projets communs pour l'UE. On l'a bien compris dans les médias, ils devront surtout permettre de désigner les futurs titulaires des grands postes à pourvoir cette année. Tous les regards, Audrey Tison le disait à l'instant, sont aujourd'hui tournés vers la présidence de la Commission, mais aussi du Parlement européen et dans une moindre mesure sans doute celle du Conseil européen. Puis d'autres postes moins médiatisés seront également surveillés de près. C'est le cas du haut représentant pour les affaires étrangères, sans oublier bien sûr Bertrand Galichet, le prochain président de la BCE.
Un poste stratégique, hypersensible, pour lequel les États de la zone euro doivent trouver au moins un compromis, puisque la décision implique l'unanimité. Mario Draghi passera la main en octobre, après 8 ans de règne à la tête de la Banque Centrale Européenne. Il laisse une institution au pouvoir renforcé, dépassant largement le pilotage des taux d'intérêt. C'est justement ce que dénoncent l'Allemagne et d'autres pays du nord de l'Europe, qui voudraient limiter le rôle de la BCE à la seule maîtrise de l'inflation. Berlin reproche à la Banque Centrale Européenne d'avoir racheté 2 600 milliards d'euros de dettes pour tenter sans grand résultat de relancer l'économie de la zone euro. À cette vision d'une orthodoxie monétaire stricte incarnée par l'actuel patron de la Bundesbank Jens Weidmann, Paris oppose des candidats plus compatibles avec la situation économique et budgétaire française, à commencer par François Villeroy de Gallo, gouverneur de la Banque de France. Les tractations sur cette nomination prendront bien sûr en compte l'attribution d'autres postes essentiels, en particulier celui de président de la Commission européenne. En marge de ce débat, la question de l'élargissement des missions de la Banque Centrale Européenne à la lutte contre le réchauffement climatique. Plusieurs gouvernements de la zone euro s'y montrent attentifs en raison de la poussée des écologistes aux élections de dimanche dernier, même si, pour certains, une autre structure devrait en être chargée, comme par exemple la Banque Européenne d'Investissement. La BEI consacre déjà un quart de ses investissements au climat et à la mise en place des accords de Paris.
Alors ce sommet des dirigeants de l'UE ce soir à Bruxelles sera aussi l'occasion de réunir tout à la fois petits et grands blessés de la politique, parmi lesquels le Premier ministre grec Alexis Tsipras, qui après avoir subi un cuisant revers s'apprête à tenter un ultime coup de poker en convoquant des élections législatives anticipées, mais aussi Angela Merkel, dont la survie du gouvernement à moyen terme est également posée, sera aussi présente autour de la table Theresa May, dont ce sera le tout dernier sommet, puisque la Première ministre britannique vaincue par l'interminable saga du Brexit quittera définitivement le pouvoir le 7 juin prochain. Et s'agissant du Royaume-Uni, justement, l'idée d'un compromis sur le Brexit à l'issue de ces élections semble plus que jamais mal en point quand le parti du populiste eurosceptique Nigel Farage plaide pour une sortie de l'UE sans accord. Les libéraux et les verts défendent eux une annulation pure et simple du Brexit. Quant aux travaillistes, si jusqu'à présent il semblait difficile de connaître réellement leur position, il semble qu'ils aient choisi de clarifier leurs intentions et de mettre fin à cette ambiguïté qui leur aura été fatale lors du scrutin de la semaine dernière. Jeremy Corbyn a indiqué qu'il se tenait prêt désormais à soutenir un second référendum. Aude Soufie, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Londres. Alors plusieurs députés du Labour s'étaient déjà déclarés en réalité en faveur de l'organisation de ce second référendum. En revanche, ce n'était pas franchement le cas de leur chef, Jeremy Corbyn, qui lui soutenait cette proposition, mais du bout des lèvres. Pourquoi ce changement de stratégie, Aude ?
D'abord parce qu'on sait que la base est largement favorable à cette option d'un second référendum. En février, il y avait eu un sondage qui montrait que 80% des électeurs travaillistes veulent une deuxième consultation populaire. Et puis, surtout, Jeremy Corbyn tire les conclusions des dernières débâcles électorales. Il y a eu évidemment ce scrutin européen dimanche. Avant cela, le parti travailliste avait pris une première claque aux élections locales en début de mois. Et cette fois, donc, le parti travailliste a perdu la moitié de ces sièges de députés européens. Beaucoup de ténors du parti disent que c'est parce qu'ils n'ont pas été clairs. Et Jeremy Corbyn a donc clarifié sa position. Elle n'est toujours pas limpide, il dit, préférer des élections générales. Mais dans le cas où elle ne serait pas organisée, il est favorable à un vote populaire. Le message vise à reconquérir les électeurs de gauche qui se sont détournés du parti travailliste au profit des libéraux-démocrates ou des Verts. Ça a par exemple été le cas à Islington, dans le nord de Londres, la circonscription de Jeremy Corbyn. Mais le message est aussi destiné au cadre du parti, parce que depuis dimanche, des voix s'élèvent pour réclamer un changement de direction. Et l'exemple de Theresa May, dont vous parliez, poussée à la démission la semaine dernière par les membres de son propre camp, a sans doute servi d'avertissement au chef de l'opposition.
Merci Aude Soufie en direct de Londres. Lui sera absent ce soir du sommet de Bruxelles, lui c'est Sébastien Kurz. Et pour cause, puisque le chancelier autrichien a été renversé hier par une motion de censure soutenue par les principaux partis d'opposition, ou quand le leader du parti conservateur qui a très nettement remporté les élections européennes se retrouve à faire les frais des révélations de l'Ibiza Gate. Tandis que le chef de file du parti d'extrême droite, Strache, obligé de démissionner de son poste de vice-chancelier à la suite de ce scandale, a lui obtenu la veille un mandat européen. Y a-t-il encore un avenir pour la gauche en France si l'on en croit les près de 32% de voix totalisées à l'occasion de ces élections européennes contre à peine 26 lors de la dernière présidentielle ? On se dit qu'il y a fort à parier que oui, ou quand l'exaspération de certains électeurs face à l'incapacité des chefs de parti à se mettre d'accord aura paradoxalement donné de la force à la gauche. Reste qu'au final, ce manque de clarification aura surtout eu pour résultat un échec cuisant pour chacun de ses représentants, à l'exception de la tête de liste Europe Écologie Les Verts, Yannick Jadot. Pour tous les autres membres de cette famille en décomposition, le temps est donc venu de l'introspection, d'autant que se prépare déjà la succession d'échéances locales à venir, dont les municipales dès le mois de mars l'an prochain. Et c'est ainsi, par exemple, qu'après avoir appelé dimanche soir à une rencontre des forces de gauche, le premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure, devrait de nouveau plaider ce soir pour le rassemblement lors d'un Conseil National extraordinaire. De son côté, et avant de parler d'éventuels partenaires, la formation de Jean-Luc Mélenchon devra elle aussi faire l'examen approfondi de sa déroute. Rosalie Lafarge, bonjour.
Bonjour.
La France insoumise a visiblement du mal à faire vivre aujourd'hui deux lignes à la fois politiques et stratégiques. D'un côté, ce que l'on pourrait appeler le populisme souverainiste, et puis de l'autre, la gauche radicale traditionnelle.
Oui, complètement. Et c'est ce que reconnaît Clémentine Autain. Sur France Inter ce matin, la députée France insoumise parle ouvertement d'un problème de ligne politique. Sauf qu'à l'écouter, on a plutôt l'impression que pour elle, c'est un problème de personne.
À mon sens, c'est évidemment un problème de ligne. Comme je dis, de profil politique, de ce qu'on a globalement donné à voir depuis deux ans. Et ma conviction, c'est que nous gagnons quand nous sommes du côté de l'espérance et pas quand nous sommes du côté du ressentiment ou de la haine, avec un discours qui peut être dans le clash permanent et qui a clivé avec une partie de notre électorat qui ne comprend plus tout à fait quelle est la ligne du mouvement.
Et ça fait doucement rire jaune Djordje Kuzmanović, président de République Souveraine, mouvement qu'il a créé après avoir claqué la porte de la France Insoumise. Pour cet ancien proche de Jean-Luc Mélenchon, Clémentine Autain a sa part de responsabilité dans cette douche froide.
C'est parti de ces gens qui ont poussé, aggravé les clivages au sein de la France insoumise pour ne faire triompher que leur ligne à eux, c'est-à-dire celle du rassemblement à gauche et de l'abandon d'une position plus populiste et plus radicale par rapport à l'Union européenne. C'était une erreur.
Une erreur qui se traduit par ce score, à peine plus de 6% des voix dimanche. Selon l'IFOP, la France insoumise conserve 36% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la dernière présidentielle, mais 17% sont partis chez les Verts, 13% au Parti communiste et 7% au Rassemblement national, comme chez les socialistes et Place publique.
Merci Rosalie Lafarge. Alors à présent, y a-t-il encore un avenir pour la droite en France? La question pourrait se poser peu ou prou dans les mêmes termes. Après que celle-ci a réalisé dimanche dernier son plus mauvais score sous la 5e République, hier soir, le patron des Républicains, Laurent Wauquiez, a proposé la tenue à la rentrée prochaine d'états généraux pour tenter de conjurer le risque d'une disparition, ni plus ni moins, de son parti. Et pour en parler avec nous, invité de la rédaction aujourd'hui en direct et en duplex du Palais du Luxembourg, Philippe Bas, sénateur Les Républicains de la Manche et président de la Commission des lois du Sénat. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et à vos côtés pour vous interroger, Stéphane Robert. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Une première question, monsieur Bas. Diriez-vous que la stratégie de Laurent Wauquiez visant à labourer les terres du Rassemblement National en enfourchant un certain nombre de ses thèmes de prédilection, à commencer par l'immigration, est responsable de l'échec de votre parti aux européennes?
Nous avons en vérité de multiples problèmes, un problème de ligne sans aucun doute, mais cette grande force de gouvernement avec Jacques Chirac puis Nicolas Sarkozy qui a été d'abord l'UMP puis les Républicains, aujourd'hui surtout n'apparaît pas aux Français comme une force de gouvernement et n'apparaît pas non plus, à vrai dire, comme une force d'opposition qui soit prête à prendre la relève. Or, ce qui se produit dans notre pays, et je crois qu'il faut tout de même le relever, c'est qu'il y a entre 7 et 8 électeurs sur 10 qui n'ont pas voté pour les candidats du gouvernement. Et la question que tout le monde se pose quand on parle politique, c'est de dire, mais où est la relève si Emmanuel Macron n'est pas capable d'avoir une assise politique plus large, et elle se rétrécit, qui va prendre un jour la suite? Eh bien, dans notre système démocratique, il y avait la gauche de gouvernement, la droite de gouvernement, qui menait pour peu ou prou avec leurs convictions, leur inspiration, des politiques responsables. Et demain, nous sommes en présence d'une alternative entre une extrême droite de destruction et un parti modéré qui n'a pas réussi à élargir son assise politique. Et donc, au fond, plutôt que de vous dire où on en est, je peux vous dire quelle est la nécessité pour la démocratie française, la nécessité absolue pour la démocratie française, c'est de construire quelque chose qui soit une alternative au pouvoir macroniste, parce que les choses sont claires.
Le président de la République voit son assise politique s'écrouler, eh bien un jour c'est le Front National qui gagnera. Et ceci est inacceptable pour tous les démocrates, les républicains dont je fais partie. Donc nous devons maintenant faire notre devoir. C'est un devoir de faire renaître une vraie force de gouvernement. Je trouve que l'initiative prise par Gérard Larcher ce matin, au fond, avec modestie, avec humilité, de repartir des territoires pour construire à partir de l'expérience qu'on aura acquise, d'apporter des solutions concrètes aux problèmes des territoires, une force politique nationale. Les partis politiques peuvent bien sûr y apporter leur contribution, mais les partis politiques ne sont pas aujourd'hui le moteur de la définition d'une nouvelle offre démocratique. On peut le regretter ou pas, mais enfin, les appareils politiques aujourd'hui n'intéressent pas les Français. C'est une question qui est peu devenue pour eux tout à fait secondaire. C'est pas ça qu'ils attendent. Ils attendent pas de l'idéologie, pas du discours creux, pas des langages binaires. Ils attendent pas du noir et blanc. Ils attendent un peu de couleur et ils attendent du concret.
Philippe Bas, est-ce que cet appel à un philosophe, à une personnalité issue du monde intellectuel pour conduire les Républicains lors de ce scrutin européen, pour donner un petit peu de substance au projet que portait votre formation politique, est-ce que c'était une erreur ?
Écoutez, nous ne sommes pas là pour instruire des procès. Je trouve que M. Bellamy est un homme qui a argumenté. Il s'est montré beaucoup plus solide que certains ne le pensaient dans le débat. Toute la question était celle de son espace politique, de la ligne politique et de la réduction du débat à une alternative artificielle entre le pouvoir en place, qui pèse un peu plus de 20% des Français, et le Front National, qui est un repoussoir censé consolider le pouvoir en place, mais le pouvoir en place n'a pas été consolidé justement par cette stratégie politique. Il rétrécit et on est aujourd'hui en France dans une situation politique que je n'ai personnellement et vous non plus jamais connue et qui est très inquiétante pour la démocratie. Et c'est pour ça que il y a une responsabilité particulière qui incombe aujourd'hui à la gauche, dont vous avez rappelé tout à l'heure qu'elle pesait quand même 32%, même si elle est complètement éclatée, et à la droite et au centre de réussir à reconstruire une crédibilité par leur travail, par du concret, et en arrêtant le langage politique, les anathèmes, les polémiques. Bah, véritablement, je pense que la situation dans laquelle nous nous trouvons, c'est l'attente des Français que ceux qui représentent les institutions, ceux qui représentent les partis politiques, changent vraiment définitivement de discours, et qu'on n'ait pas ce sentiment que les gens là-haut passent leur temps à se taper dessus, tandis que les Français attendent des solutions qui ne viennent pas.
On a vu à l'occasion de ce scrutin qu'un certain nombre d'électeurs de la droite avaient voté certes pour le Rassemblement National, mais avaient voté pour La République En Marche. Est-ce que vous considérez qu'Emmanuel Macron a subtilisé une partie de l'électorat de la droite républicaine ?
Ben, je ne dirais pas comme vous, parce que c'est aussi la faute de la droite et du centre de ne pas avoir su parler à ceux qui philosophiquement sont proches d'elle. Mais c'est en tout cas un grand danger de vouloir réduire le débat, comme j'ai essayé de le dire tout à l'heure, à une confrontation entre l'inacceptable et un pouvoir mou qui rétrécit sur lui-même. Je remarque quand même que le pouvoir use, qu'en France il use deux fois plus vite qu'ailleurs, et par conséquent, quand le pouvoir est usé, les Français veulent le changer, et bien demain, s'ils veulent le changer, il faut qu'il y ait une autre offre que l'offre de Marine Le Pen, dont nous ne voulons pas. Moi, je ne voudrais pas que on se retrouve dans une situation où, avec sans doute un très fort taux d'abstention à une élection nationale, Marine Le Pen, sans même avoir besoin de progresser beaucoup, face à l'écroulement de son adversaire, se retrouverait élue. Je pense que notre responsabilité particulière, si on a la lucidité de se projeter dans cet avenir dangereux, c'est de le conjurer conjurer en rétablissant ce qui a bien fonctionné sous la Ve République grâce au général de Gaulle, c'est-à-dire une démocratie régulée par l'alternance, que les Français sachent que quand ils ne sont pas contents du pouvoir, ils peuvent avoir une autre offre politique qui sera une offre raisonnable et qui apportera un changement pour permettre de répondre à des attentes déçues.
Merci Philippe Bas, sénateur Les Républicains de la Manche. Je le rappelle, est président également de la commission des lois du Sénat, d'avoir été en direct avec nous en duplex du Palais du Luxembourg. Merci également à Stéphane Robert ainsi qu'à Jérémy Tuile pour les moyens techniques. Est-on à l'aube de la plus grande secousse à avoir jamais bouleversé l'équilibre du monde de l'automobile? Hier, Renault a confirmé qu'il allait étudier avec intérêt l'ambitieux projet de fusion que lui a présenté le même jour la compagnie italo-américaine propriétaire de Fiat et Chrysler. Projet qui, le cas échéant, donnerait naissance au troisième constructeur automobile mondial et même le numéro un si l'on tient compte de l'alliance forgée par ailleurs entre Renault, Nissan et Mitsubishi, sauf que le risque de ces projets de fusion reste toujours le même, qu'ils s'accompagnent d'économies d'échelle comprenées de suppression d'emplois. C'était en tous les cas le sens de l'intervention ce matin du ministre de l'économie Bruno Le Maire, qui a exigé que ce projet n'entraîne aucune fermeture d'usine en France et demandé par ailleurs des garanties sur la préservation des emplois. L'entreprise américaine General Electric a, elle, annoncé ce matin un plan social portant sur la suppression de 1050 emplois localisés sur des sites du territoire de Belfort. Et ce, quand bien même début mai, Emmanuel Macron avait assuré dans un courrier aux élus locaux que le dossier General Electric de Belfort faisait l'objet de la plus grande vigilance de la part de l'État. C'est une première en France, une mère et sa fille de 17 ans, toutes deux confrontées à des pathologies respiratoires importantes, ont décidé d'assigner l'État en justice pour carence fautive face à la pollution de l'air. Elles demandent 160 000 euros de réparation. L'audience inédite a débuté ce matin au tribunal administratif de Montreuil. Elle aussi n'hésite pas à interpeller les puissants pour les obliger à respecter leurs engagements. Elle, c'est l'association Notre Affaire à Tous, laquelle publie aujourd'hui un contre-rapport sur les engagements de l'entreprise totale pour lutter contre le changement climatique, et ce alors que les actionnaires du groupe pétrolier s'apprêtent à voter demain sur les grandes orientations stratégiques, notamment en matière environnementale. Léa Gatch, bonjour.
Bonjour Thomas.
Alors, ce n'est pas la première fois que l'ONG pour la justice climatique interpelle ainsi Total et pointe son double discours, cette fois-ci, et chiffre à l'appui. L'association dénonce notamment la stratégie du risque du groupe qui, selon elle, ne respecte pas les règles fixées par l'accord de Paris.
Oui, alors depuis 2016, Total publie un rapport climat. Il est obligatoire pour les grandes entreprises. C'est un bilan de leur impact climatique et de leur engagement pour le réduire. Et dans son rapport climat, Total explique donc qu'il veut développer le solaire, l'éolien, les biocarburants, investir largement dans des projets de captage de CO2 et surtout miser sur le gaz qui en émet deux fois moins que le charbon. C'est donc un pilier de la stratégie environnementale de Total face à une demande croissante d'électricité, et c'est même devenu la moitié de sa production d'hydrocarbures. Mais pour Paul Moujol, membre de l'association Notre Affaire à Tous et co-auteur du contre-rapport, le gaz est une mauvaise alternative.
Sur toute la chaîne de vie du gaz, c'est-à-dire lors de son extraction et lors du déplacement du gaz vers le consommateur, il émet beaucoup de méthane qui, en fait, ont un potentiel de réchauffement 72 fois supérieur à court terme aux dioxydes de carbone.
Total promet une gestion responsable pour maîtriser les émissions de méthane et surtout, le groupe affiche une ambition, réduire de 15% ses émissions carbone d'ici 2030 et respecter la limite fixée par l'accord de Paris, 2 degrés donc maximum de réchauffement planétaire d'ici 2100, une tromperie aux yeux de Paul Moujol.
Le groupe est en train de construire une stratégie qui se base sur un scénario qui mène à un réchauffement compris entre 2,7 et 3,3 degrés. Cette information est presque dissimulée par l'entreprise et le rapport démontre également que si les mesures proposées par Total étaient mises en œuvre de manière sincère, même là, Total n'arriverait pas à avoir une trajectoire compatible avec l'accord de Paris.
Alors Notre Affaire à Tous ne voit qu'une seule option pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris, arrêter immédiatement l'exploration et progressivement l'exploitation d'hydrocarbures. Ils envisagent une action en justice contre Total.
Merci Léa Gage. Dans l'enquête sur l'explosion en colis piégé à Lyon vendredi dernier, le ministre français de l'Intérieur Christophe Castaner s'est déclaré certain aujourd'hui que la police tenait l'auteur de l'attentat en la personne d'un étudiant en informatique de 24 ans de nationalité algérienne et en situation irrégulière. Lors de la perquisition menée à son domicile, les enquêteurs ont mis la main non seulement sur le vélo aperçu sur les images de vidéosurveillance diffusées par la police, mais aussi des produits nécessaires à la fabrication de la bombe. Enfin, les empreintes ADN relevées sur les restes du colis piégé correspondent bien à celles du principal suspect. Deux Français ont encore été condamnés à mort ce matin en Irak, portant à 6 le nombre de ressortissants ayant écopé depuis dimanche de la peine capitale pour avoir rejoint le groupe État islamique. Enfin, on l'a appris hier, le fondateur de l'organisation Human Rights Watch, Robert Bernstein, ardent défenseur américain de la dissidence politique et de la liberté d'expression, mais aussi à la tête de la maison d'édition Random House, est décédé hier. Elle était âgée de 96 ans. On termine avec un mot rapide de météo marqué par un temps instable cet après-midi sur l'ensemble du territoire, où le ciel sera partagé entre soleil, nuages et averses localement orageuses. Quant aux températures, elles varieront entre 15 et 26 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François-Charles de Mergue. À 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.